Bonjour, bienvenue donc dans cette émission Cultimag, un projet associatif de l'association Cultimatech et en partenariat avec Mayuri Campus. Nous sommes sur l'émission 5. Ce projet Cultimag a pour ambition de tout simplement professionnaliser dans les métiers de la communication et en particulier de la présentation audiovisuelle et radio, donc les animateurs et encadrants de l'association Cultimatech, afin d'un côté de produire donc des choses intéressantes à écouter de manière à décrypter un petit peu notre univers ludique et associatif, et puis de l'autre, de manière à accompagner des futurs projets, notamment dans les quartiers, de par les connaissances et compétences qui seront acquises. Donc cette cinquième émission donc sera dédiée aux salles de loisirs, à l'environnement des jeux de vidéo compétitifs, et puis en fait une approche aussi des réseaux sociaux à travers donc ce prisme ludique. Donc autour de la table,
il y a Michael, donc encore une fois parmi vous, avec Colis, et vas-y.
Bonjour tout le monde.
Et Michael.
Bonjour chers auditeurs et auditrices.
Voilà. Donc les salles de loisirs, donc c'est un nom un peu trop générique, on va dire, mais bon, dans l'absolu, dedans on pourra intégrer assez facilement tous les lieux où se rassemblent des passionnés pour pratiquer une activité ludique ou culturelle. Et donc en ce sens, on peut brasser large avec les historiques à travers les fêtes foraines, les cinémas, pour arriver à ce qui nous intéresse davantage, les bars gaming autour des jeux vidéo, des escape games et autres. Et on essaiera de retracer un petit peu tout ce qui s'est fait par le passé, tout ce qui continue à exister, puis effectivement les approches que l'on peut avoir spécifiquement en Guyane par rapport à ce type d'activité. Donc dans un premier temps, par rapport à cette définition, quelles ont été, vous, de votre côté, les différentes salles que vous avez pu fréquenter pour pratiquer une activité de loisir? On pourrait aller peut-être jusqu'au sport, mais on va peut-être se restreindre sur cette approche de rassembler des passionnés pour pratiquer une activité passion.
Moi, pour commencer, de manière très récente, vu qu'elle a ouvert assez récemment, il y a quelques années quand même, j'aurais parlé du Hitbox, du coup, qui est un bar gaming. Un bar très intéressant où j'ai pu faire beaucoup de choses, comme des compétitions. J'ai eu l'occasion aussi de faire des compétitions de jeux, des compétitions de Uno aussi, le dimanche. On a fait beaucoup de choses intéressantes. Et ce qui est marquant, ce qui était marquant surtout, c'est le fait que ce soit plus convivial qu'autre chose, en fait. Et de base, je suis pas un gros habitué de bar, ni du tout un consommateur d'alcool, mais pour le coup, on n'a pas l'impression, enfin, on était dans un bar sans avoir l'impression d'être dans un bar. Et c'est ce qui faisait tout son charme.
Donc, c'est le propre des bars thématiques, on va dire, en l'occurrence, avec le prisme sur les jeux vidéo.
Dû au fait du gaming, je pense, qui fait qu'on n'a pas cette impression de bar, et du coup, en tant que gamer, on se sent forcément plus à l'aise et dans notre environnement, je pense.
Donc là, vous parlez de la dernière, entre guillemets, émanescence de ce qui peut se faire autour des jeux vidéo, autour de ces lieux, mais par exemple, par rapport aux salles d'arcade et par rapport aux cybercafés, quelles ont été vos pratiques ou quelle idée vous en faites
Moi, c'est le Yana Game, qui du coup est au Family Plaza, à côté d'Agora, au cinéma. Moi, j'étais plus un peu un fan de arcade, oui, et de jeux comme, par exemple, je pense que vous connaissez le fameux jeu où on donne un coup de poing dans le punching ball pour un gros score. Voilà.
Il y avait héritage direct des fêtes foraines, d'ailleurs.
Il y avait ça aussi au bowling aussi, à Rémy.
Oui, il y a ça au bowling.
Il y avait ça aussi.
Et il y a au-delà du donner un coup de poing, on peut donner un coup de pied aussi, puisqu'il y a celui en mode de version football.
Ouais, il y avait la version foot aussi.
C'était assez intéressant. Bon, on pouvait pas monter sur les motos forcément, enfin, vu ma taille et tout ça, il y avait ce petit souci-là, mais autrement, le fait de pouvoir jouer au billard, le petit truc pour faire passer les petits disques aussi. Ça aussi, c'est
les palais. Au niveau des salles d'arcade, je crois qu'il y en avait quand même aussi sur Cayenne, qui est peut-être pas autant reconnu, mais bon, c'est vrai que les arcades, ça date des années 70, donc avec la montée en puissance des jeux vidéo, avant qu'on considère que les jeux vidéo pouvaient être des supports de salon, des consoles de salon. Ouais. Au niveau des cybercafés, vous avez eu l'occasion d'en fréquenter ou
Au niveau des cybercafés, j'ai pas pu. Enfin, je suis allé une fois pour voir comment c'était, pour découvrir, mais j'ai pas pu y rester assez longtemps. Enfin, j'étais assez jeune, donc du coup, je pouvais pas rester longtemps non plus. manque de moyens. Et puis, je n'avais pas l'âge non plus pour forcément y rester très longtemps. Mais c'était assez, enfin, c'est assez waouh, surtout quand tu es petit, tu rentres, tu vois des jeux partout, tu vois des trucs que tu connais pas, tu as envie de tout tester, tout toucher, sauf que ça fonctionne pas comme ça. Mais sinon, oui, c'est assez intéressant. Mmh. Et pareil pour la salle d'arcade de celle de Cayenne, j'étais au collège quand j'y suis rentré. Donc j'y suis rentré, je comprenais pas tout, mais je savais que c'était. Il y avait de la valeur, enfin, il y avait des personnes beaucoup plus âgées que moi. Je me suis dit, il y a des vieux qui jouent au jeu, c'est déjà bien impressionnant, mais je sentais qu'il y avait une histoire derrière, parce que c'est pas juste, on n'est pas là juste pour jouer et puis c'est tout, mais tu sens qu'il y a
ce rassemblement de passionnés, voilà, ayant la même culture et autres.
Il y a de ça.
Police.
Bah, pareil pour moi, lorsque j'ai été aux États-Unis, à Los Angeles précisément, j'ai pu fréquenter beaucoup, beaucoup de salles d'arcade et de jeux vidéo. Et là, notamment, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient rassemblées justement dans ce but de se rassembler, de pouvoir partager un moment agréable, non seulement autour des jeux d'arcade, mais franchement, les gens, ils étaient là, ils discutaient, ils prenaient un petit café au calme. Voilà.
Et sur les Laser Games, on a la chance d'avoir le Laser West aussi qui est implanté depuis 5-6 ans, je crois,
Laser
maintenant.
Laser West, l'Arrivo.
Voilà, tout à fait. Donc ce principe de se retrouver dans une salle, dans un labyrinthe, de tirer avec des fusils laser et autres, vos impressions de ce type d'activité.
Franchement, c'est intéressant ce concept, parce qu'on est dans un labyrinthe tout d'abord, et puis... le fait d'aller courir derrière les gens et sauter par-dessus les... même si c'était interdit, je crois.
Oui, bon,
il y a des normes de sécurité à respecter, voilà, la plupart du temps. Et donc, et enfin, la salle noble, hein, le cinéma, finalement, puisque c'est aussi un endroit où l'on paye pour accéder à un bien culturel, partager des moments, qui est l'une des sorties phares et préférées, et familiales, et pour essayer de fonder une famille future en sortant sa belle. Quelles sont... Vos pratiques du cinéma par rapport à tout ça?
Alors moi, je suis plus un gros habitué d'Agora plutôt que de celui qui est en ville. Je suis plus un habitué d'Agora pour l'ambiance et le fait que ce soit beaucoup plus spacieux et plus intéressant. Et ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'il propose à Agora, parce qu'il ne propose pas forcément les mêmes films qu'à l'Eldorado. Mmh. Juste pour ça, moi je suis un gros... fan entre guillemets d'Agora.
Mmh. Oui. Et donc là on a fait sensiblement le tour, mais bon, c'est vrai qu'il y a encore des escape games, il y a une multitude d'espaces comme ça qui se constituent au fur et à mesure, tant sur l'aspect technique, c'est-à-dire le fait de mettre à disposition des gens des biens culturels qui sont encore trop chers. Ça a été l'âge d'or des cybercafés, quand les ordinateurs coûtaient cher, quand l'accès à Internet était difficile, les salles d'arcade avant que les consoles se démocratisent dans les maisons, le cinéma avec maintenant les variantes Netflix et compagnie, donc une consommation individuelle. Cette notion de payer pour pratiquer une activité de loisir, quelle qu'elle soit, que ça soit les jeux vidéo, les jeux de société, les films, etc. Comment percevez-vous cette chose, en fait, tout simplement, de devoir payer du temps pour pratiquer sa passion, pour pratiquer un loisir?
Je veux parler, non?
Je trouve que c'est naturel, hein, parce qu'on vient tout d'abord, on sait à quoi s'attendre, donc on paye pour ce que l'on vient faire. Donc moi, je trouve que c'est normal de payer pour rentrer.
Au-delà de ça, moi aussi, je trouve que c'est assez normal, puisque de toute façon, il y a quand même des personnes qui ont mis en place des choses. Ils ont eux-mêmes payé, dépensé de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour pouvoir mettre en place des activités. Et comme ce que je dis, tout travail mérite salaire, donc il faut quand même qu'il soit rémunéré. Et puis surtout que beaucoup d'activités en valent vraiment le coup, donc, et ne sont pas forcément exorbitants. Donc, c'est toujours intéressant d'aller, de découvrir, de faire autre chose que de rester chez soi devant sa console, par exemple.
Oui, après, voilà, c'est le business, c'est le business. Toute affaire doit être rentable et j'estime que, pour moi, c'est normal de payer. Surtout, si on aime quelque chose, forcément, le prix ne va pas nous inquiéter. C'est pas quelque chose...
Quel serait votre seuil, à peu près? Généralement, les gens se disent, pour une heure de loisir... C'est calqué relativement autour donc, du tarif cinéma, c'est-à-dire une place de cinéma est à 7,50€, 8€ maintenant pour une heure et demie, deux heures. Pour passer une demi-journée journée, pour passer 2 heures, 3 heures de plaisir. Quel est le seuil critique pour vous financièrement en tant que jeune, ou qu'est-ce qui fait que vous viendrez beaucoup plus souvent ou pas souvent, ou comment vous sentez les choses financièrement parlant?
Moi, j'aurais peut-être dit entre une dizaine et une vingtaine d'euros. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est surtout lorsque, par rapport au cinéma,
sortie hebdomadaire du coup.
Plus voilà, justement. Par rapport au cinéma où on vient, on s'assied et puis on mange, on regarde un film, ça c'est une chose. Mais par exemple, le Laser West, il faut quand même, il y a du matériel qui est prêté. Faut pas que là, le matériel non plus soit abîmé, puisque si je me mets à la place de l'entreprise, ben mon matériel est abîmé. Ça me fait quelque chose, va falloir le changer. En attendant de changer, vu que ce ne sera pas le soir même, je perds une place, donc du coup, il faut que je rentabilise ça, et etc. etc.
D'accord. Donc, c'est assez normal. Compréhensif sur les coûts demandés.
Oui, oui.
Voilà. Après, c'est clair que ça demande des budgets particuliers à chaque fois, etc. Oui. Donc, on va clôturer donc, cette première partie sur les salles de loisirs, on va dire. D'ici la semaine prochaine, nous aurons peut-être l'occasion de vous présenter plus en détail, justement, une salle de loisirs que la Cultimatech a permis de voir fleurir en tant que pépinière de projet. Et donc là, nous allons vous proposer une petite page musicale avant de passer à la deuxième partie où nous parlerons de l'environnement, donc des jeux vidéo de compétition, que ce soit les jeux en eux-mêmes, mais aussi toutes les organisations qu'il y a eu autour et qui se profilent à l'horizon. Merci. Your black count them all. Pop the molly, I'm sweat. Pop the molly, I'm sweat. Mama always told me, boy, count your black count them all.
Nous sommes toujours en compagnie de Cyril, Michael, Colis et moi-même, Michael. Donc pour continuer sur le thème du jeu vidéo, nous allons parler de eFootball. eFootball qui est un jeu qui est sorti juste après PES 2021. Donc eFootball, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc, comme j'ai dit, la suite de PES 2021, mais cette fois-ci, eFootball est gratuit et en ligne et disponible sur toutes les plateformes.
essayé de changer de modèle, c'est-à-dire voilà. plutôt d'acheter directement le jeu vidéo et partir sur ce modèle-là. Ils ont pris un peu le modèle des téléphones portables avec les jeux qu'on achète, voilà. qu'on a gratuits, où on achète progressivement des choses.
À l'intérieur.
Par contre, ça a été un petit four industriel, on va dire, ou en tout cas, il y a eu de vives critiques pour changer. La critique est facile.
Oui, beaucoup de bugs, surtout aussi dans eFootball, malheureusement. Du coup, l'industrie Konami s'est quand même excusée de pouvoir, la gêne occasionnée.
Tous ces bugs.
Et bon, bien sûr, eFootball, c'est comme l'avait dit Nickel, après, c'est donc Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer qui était quand même l'un des jeux phares qui, à l'époque, moi j'ai commencé le football avec Pro Evolution Soccer.
Le grand concurrent de FIFA.
Concurrent de FIFA, exactement. Jusqu'à ce que FIFA commence à gagner son règne, du coup, sur le trône.
Et pour le coup, cette année, même FIFA 22, puisqu'ils ont sorti leur propre version, donc FIFA 22 qui n'est pas gratuit, mais par contre a autant de bugs que eFootball, c'est vraiment ce qui est inquiétant, et même eux, franchement, payer pour avoir un jeu buggé, c'est vraiment problématique.
C'est peut-être justement les problématiques des jeux compétitifs, ou en tout cas des jeux à franchise, où chaque année, 2020, 2021, 2022, ils sont obligés de sortir des choses.
Ouais. Je pense aussi, par exemple, Cyberpunk. Justement, le problème de Cyberpunk, c'est qu'il est sorti beaucoup trop tôt, parce que l'éditeur voulait absolument que le jeu sorte, et du coup, ils ont fait de leur mieux, entre guillemets, et je pense qu'il y a dû avoir peut-être cette erreur entre FIFA et, du coup, eFootball, peut-être.
C'est cette attente des passionnés de l'argent qui doit rentrer tous les ans pour quand on est dans le domaine capitaliste et qui peut-être nuit à cet aspect créatif ou ce besoin de temps pour produire des choses intéressantes. Et donc autour de la compétition.
Oui, si Colis a quelque chose à ajouter au niveau de la compétition, puisque je sais que tu es quand même champion intercaribéen de Dragon Ball Z. Donc du coup, si tu pouvais nous en parler un petit peu rapidement.
Alors, qu'est-ce que tu veux savoir?
Justement, comment ça s'est passé, ne serait-ce que ta compétition, assez rapidement?
Alors, comment ça s'est passé? J'ai fait un tournoi en Guyane, tout d'abord, dans un premier temps. Ensuite, cela m'a permis de partir hors de la Guyane, donc en Guadeloupe d'abord. J'ai gagné encore là-bas, ce qui m'a permis de partir pour un tournoi majeur qui s'appelle l'Evo. Et là, j'ai pu rencontrer tous les meilleurs des meilleurs du monde. Donc, à savoir les États-Unis, les Asiates,
les Japonais,
voilà, tout. Les meilleurs des meilleurs.
C'est vrai que par rapport aux jeux vidéo, donc il y a deux modes d'organisation. Il y a la partie de l'éditeur, celui qui est l'ayant droit, propriété intellectuelle des jeux. Ça a été l'un des virevoltages de Konami sur PES avant qu'ils constatent encore une érosion de leur base. Et sinon, des structures ou bien associatives ou carrément dans l'événementiel qui sont sur l'organisation de ce mode de compétition. Et puis après, maintenant, les online.
Là actuellement concernant Dragon Ball, voilà, le online s'est beaucoup développé. Là ils essayent de mettre en place quelque chose, un système qui permet aux joueurs à travers le monde de pouvoir se connecter, de jouer en même temps, et que le réseau passe super bien. C'est ce qu'ils ont fait sur le jeu, je ne sais pas si vous connaissez Guilty Gear, ça s'appelle un rollback, ce qui permet justement, même si tu as une connexion faible, de jouer avec quelqu'un loin.
Voilà. Ça, c'était le problème technique. Voilà. Parce que c'est vrai que sur les jeux vidéo, pendant très longtemps, on devait faire ça ensemble, au même endroit, par rapport aux problématiques techniques, ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'Internet avec une grosse fibre, ou tout ça. On a connu ça avec les jeux vidéo, les Counter-Strike et autres, longtemps, où effectivement, il y avait de la triche, où on essayait de réduire au maximum les besoins du jeu, de manière à ce que ça passe plus dans les tuyaux des connexions.
Justement, pour pallier à ça, j'ai vu qu'au niveau des sponsors et tout, ils essayent de mettre de l'argent pour que les joueurs puissent partir dans d'autres pays pour pouvoir quand même faire c'est un tour, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un tour qu'ils font pour pouvoir faire vivre justement le jeu vidéo.
Donc là, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a alors le feu, les World Cyber Games qui était soutenu par Samsung, qui avait vraiment cette ampleur internationale, compétitive, un petit peu de ce qu'auraient pu être les jeux vidéo avec le prisme des Jeux Olympiques. Il y a l'ESWC qui a des prétentions internationales, donc justement qui propose une compétition et les meilleurs joueurs se rassemblent autour. C'est un petit peu le principe de l'Evo quelque part, qui fait un rassemblement et c'est les gens qui se déplacent directement. Il n'y a pas nécessairement une sélection initiale qui permet d'entrer dans les compétitions. Et sur le online, quelles sont les évolutions de ce qui pourrait avoir un intérêt?
Eh bien, Covid oblige, du coup, c'est ce qui fait que ça a poussé à... une explosion des compétitions mais en ligne, puisque je me souviens de mes propres tournois, de ceux où j'ai pu y aller. À l'époque, c'était avec la CDV, c'était sur Naruto Storm 4, donc un jeu de combat, encore une fois, où du coup, notre compétition s'était fait, on était l'un à côté de l'autre et on jouait contre nos adversaires, on voyait leur tête, donc du coup, quand ils gagnaient ou quand ils perdaient, c'était assez amusant.
L'aspect psychologique.
Voilà, l'aspect psychologique aussi. Mais du coup, passer en online, ça a permis de toute façon, il y a de plus en plus de jeux qui se jouent uniquement en online. On ne peut plus trop jouer côte à côte. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra deux consoles. Autant être chez soi, mais il faut encore avoir une bonne connexion. Mmh. C'est ça le souci.
Selon vous, quel est le futur des compétitions dans les jeux vidéo, tout en considérant que finalement les anciennes franchises sont peut-être de moins en moins jouées au profit de jeux qui sont peut-être beaucoup plus simples d'accès et peut-être un petit peu moins techniques? Comment vous ressentez les choses?
Je pense que déjà ils vont créer un serveur privé du coup pour qu'on puisse faire justement la compétition et du coup jouer en mode online, parce que justement le serveur privé ça a aussi cette utilité, c'est-à-dire que du coup les personnes concernées, on va dire, ont leur propre serveur, parce qu'il faut savoir que dans le jeu online, on est tous regroupés dans un seul serveur. Donc du coup, ça peut arriver qu'il peut avoir des bugs, pas forcément liés à la connexion, mais forcément liés au serveur aussi. Et donc du coup, grâce au serveur privé, nous aurons plus facilement accès à une maniabilité ou une facilité de jeu que sera réservé à un type professionnel, en fait. Ouais.
Généralement, les serveurs, c'est ce qui permet d'héberger l'intégralité des calculs de la compétition. Et en fait, c'est juste à chacun d'avoir une bonne connexion pour arriver à ce serveur. Mais une fois arrivé à ce serveur, théoriquement, tout le monde est sur le même pied d'égalité, puisque le serveur gère justement cette partie technique et qui demande beaucoup de ressources, généralement.
Et d'ailleurs, ça se fait à partir du jeu même, je pense. Il y a des modes et justement, on peut choisir... de jouer seulement en local.
Ah, voilà. Il y a mode de jeu, oui.
Voilà.
Au niveau de tout ça, vous qui avez connu cette grande famille de jeux, je sais pas, par exemple, à un moment donné, il a percé Candy Crush, Fruit Ninja, etc. Est-ce que vous pensez que ça mériterait d'être du jeu compétitif par rapport à des jeux qui initialement demandaient beaucoup de maîtrise, savoir appuyer les bons boutons, faire les bons enchaînements sur le versus fighting, donc les jeux de combat, bien connaître les stratégies pour FIFA, PES, le positionnement, le choix de ses équipes, etc. Comment vous voyez ces jeux qui sont dits casual, c'est-à-dire de joueurs occasionnels, comment vous les percevez, vous, en tant qu'ancien pratiquant et pratiquant toujours de jeux entre guillemets un petit peu plus nobles?
J'estime qu'il y a des jeux qu'on appelle jeux de type quotidien, où on va jouer quand on est dans le train, par exemple, ou aux toilettes, ou bien en train d'attendre forcément quelque chose. Donc forcément, le jeu qui m'a fait le plus penser ça, c'est Angry Birds. Je pense que vous connaissez tous le fameux jeu Angry Birds qui a fait un gros succès, du coup. Et je pense que ce genre de jeu se catégoriserait vraiment comme des jeux comme passe-temps, on va dire. Pas forcément professionnel, parce que les jeux comme Pro Evolution Soccer, FIFA ou Dragon Ball FighterZ ou Naruto Storm 4,
une courbe d'apprentissage plus importante.
Voilà, sont plus techniques, plus professionnels, plus cadrés, je pense, et c'est donc plus pratique pour la compétition.
Je pense que ce type de jeu, dans l'esprit de tout le monde, c'est on accepte le fait que ce soit un jeu qui sort. C'est un jeu du moment.
Voilà,
et puis,
c'est peut-être les réseaux sociaux justement qui ont apporté ce phénomène de mode. Et donc justement, ça va nous permettre d'arriver sur notre troisième partie, donc l'usage des réseaux sociaux pour les pratiquants de loisirs. Et donc là, on va vous proposer une deuxième page musicale Et donc, vous êtes sur Cultimag, une émission en partenariat avec Mayuri Campus. Check motherfucking one, check one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Check one, check motherfucking one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Check motherfucking one, check one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Chitty chitty gang bang, niggas wanna slang gang. But like I said before, it's a ghetto thing. You wouldn't understand it, cause at the tender age of 14, the gap was handy. I put in work to get the cash on. When a nigga stepped up close, I got the blast on. And motherfuckers in my hood was down for that. Nigga, what I packed a big fat motherfucking AR-15. And fry that ass like sizzling. Cause in the bay, ain't no red or no blue guys. Motherfuckers just drop like shoe flies. So when you come, don't claim no blue or red. Cause these niggas will color your ass dead. I gotta keep my Tech-9 in the bushes. Make more mail than the rest of the pushers. I'm staying tough like Wrangler. Niggas don't care if you a Crip or a Blood. We'll all get the cash. Check motherfucking one, check one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Check one, check motherfucking one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Check motherfucking one, check one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Break mine off, became a slang word. Selling that cooked up cane burn is a key to a motherfucking G. Wasn't caps in the mix back in 1983. So that's old school shit to me. I wanna live to see 23. But these niggas in the ghetto crave to see a nigga laying dead in the fucking grave. And I gots to come sick with it. I sold dope and crack and shit, but didn't stick with it. Cause the boys in blue, they got some new shit. A helicopter that you can't fuck with. And a funky ass black on white. Red and blue lights with that engine something tight. But 5-0 can't fuck with the 5.0. Cause I'm an old school nigga at the sideshow. I whip shit and get the nigga straight stuck on. Pigs have a coke and a smile and get the fuck on. Cause I'm the same old nigga. Even though my pocket's fat and my belly's bigger. I'm at the age 22, 17 years old, shit, I probably gaffled you. But forget that shit because it's all good. And Mr. Rogers ain't got shit on my neighborhood. Cause we was all young gangsters living on a razor. Fuck with us and we sprayed ya. But in 93, it ain't for you and me. We'll straight get the gas check chain. Motherfucking one, check one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Check one, check motherfucking one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. Check motherfucking one, check one, two. Shoot a motherfucker down, what a nigga do. On the real though, partner, this is what a nigga trying to say. When you shoot the next motherfucker, you're going to jail regardless of what motherfucking color you got on. You know what I'm saying? You're gonna get the gas chamber regardless. So why not do this shit for some cash anyway? Like my little partner Bushwick say, if shit don't make dollars, it don't make sense. 187,000 G.
Campus, toujours en compagnie de Cyril, Michael, Collis et moi-même, Nickel. Et nous allons entamer cette troisième partie en parlant des réseaux sociaux et de leur expansion au niveau international et de ce qui a pu arriver également comme problème récemment.
Sur la pratique ludique, on va dire. Donc effectivement, en actualité chaude, on a eu le crash de Facebook, un petit bug, etc. Comment vous avez ressenti la chose?
Moi, ça ne m'a pas fait grand-chose puisque j'étais occupé de toute façon, je ne l'ai pas vraiment remarqué. Mais je sais que certains, je pense que franchement, à travers le monde, il doit y avoir des jeunes assez addicts aux réseaux sociaux qui ont dû être en dépression pendant quelques heures quand même.
Les influenceurs, du coup, voilà. Instagram, qui utilisent les réseaux sociaux aussi pour travailler quand même. Ouais. Et du coup, ils ont retrouvé ce genre de bug qui était peut-être désastreux pour eux. Mais j'ai fait un peu mes recherches et j'ai vu qu'en fait, apparemment, c'était les serveurs qui ont eu un gros problème. Et malencontreusement, ils ont essayé de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais à ma grande surprise, le seul réseau social qui a réussi à bien tourner, c'était Twitter.
Qui était indépendant,
voilà, qui est vraiment indépendant de Facebook, en fait. Du coup, on peut se poser certaines questions du fait que Facebook a quand même des difficultés avec leur serveur, mais c'est pas trop grave.
Twitter a explosé au niveau des messages à ce moment-là, puisque du coup, c'était le seul réseau commun en dehors de Facebook. Telegram, le concurrent de WhatsApp, apparemment lui-même a eu un petit coup de boost sur les inscriptions. Enfin bon, ce qui est marrant, c'est qu'en 6 heures de temps, ça y est, c'est la fin du monde et tout le monde essaie de trouver une solution alternative.
C'était pareil avec WhatsApp à un moment donné, lorsque ils annonçaient que
Ah, ils allaient changer leur position.
Voilà, c'était ça.
Ah oui,
commencer à aller sur Signal ou les applications qui permettaient d'envoyer des messages.
Et donc, du coup, bah, par rapport à... Tu parlais d'addiction, et donc qui dit addiction dit une certaine forme d'envie, de besoin, de passion. Pour les joueurs, pour les gamers, pour bah, tous ceux qui aiment passer du temps pour, sur ce mode de loisir-là que fournissent les réseaux sociaux, quelles sont vos pratiques? Comment vous sentez les choses?
Encore, ça aurait été un réseau social tel que Twitch ou YouTube, ça aurait été aussi, enfin, ça aurait été un peu plus impactant pour nous, puisqu'on est un peu plus redirigé vers ces plateformes-là. Ouais. Mais honnêtement, franchement, WhatsApp, le fait que WhatsApp ait bugué Facebook ou Instagram, pour le moment, ça m'a pas fait grand-chose. Je pense que ça aurait duré plus longtemps, ça m'a peut-être un peu gêné, puisque je me sers aussi de ces plateformes-là pour partager des choses. Mais sinon, non, ça va.
Pour communiquer aussi.
Voilà,
pour
communiquer aussi.
Il faut savoir que ça existe aussi dans les jeux vidéo. Il y a certains jeux, on dépend des serveurs. Mais eux, ils font un autre travail, c'est-à-dire que même s'ils font leurs affaires, leur maintenance et tout, ils mettent on a quand même accès au jeu en ligne. Sauf qu'en fait, on dit le ping est réduit.
Voilà, la puissance de la connexion est un peu plus basse et beaucoup, enfin un peu plus mauvaise, mais il faut faire attention.
Et donc du coup, en tant que passionné, pour chacun des réseaux, quelle est votre pratique? S'il y avait une interaction avec le jeu, par exemple, sur Facebook, YouTube, enfin, qu'est-ce que vous allez chercher en fonction des plateformes par rapport à ce que ça propose? Par exemple, sur Facebook, l'interaction avec le jeu, la pratique de ces activités, que ce soit jeux vidéo ou autre, sur Facebook, YouTube et autres, à chaque réseau social, son mode de consommation de loisirs. Est-ce que vous pouvez peut-être dire ce que vous trouvez dans chacune de ces choses?
Alors moi, à l'époque, c'était surtout à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux sur Facebook. C'était très intéressant et très très intéressant plutôt. Et de ces jours-là, je ne joue plus vraiment sur Facebook.
C'était plutôt des petits jeux pour s'occuper rapidement avec les interlocuteurs.
Je ne sais pas si vous connaissez Scrap sur Facebook.
Oui.
Il y avait
ça
à un moment donné. Oui. Et franchement, ça me permettait juste de rester en contact avec mes amis en passant du temps.
Voilà, c'est surtout ça la base, franchement.
Sur YouTube, l'interaction avec le jeu.
YouTube, c'est plus vraiment une plateforme où on regarde des vidéos sur le jeu, mais on ne peut pas spécialement...
Plutôt d'apprentissage.
Voilà, c'est plus pour apprendre stratégies. Voilà, certaines stratégies, c'est plus ça.
Après, ils ont quand même mis en place le direct, le live direct.
Voilà, c'était peut-être pour concurrencer.
Voilà, c'est pour quand même...
C'était plus pour ça.
Ceux qui, par exemple, sont une communauté beaucoup plus grosse sur YouTube que sur Twitch, ils font d'abord leur live sur YouTube, mais j'en ai connu plein comme ça. Et après, Twitch, bien évidemment, c'est la plateforme la plus connue quand même pour le terme de gaming en live direct. C'est ce qu'on utilise principalement, c'est ce que j'utilise aussi, Twitch.
Donc Twitch qui permet de voir effectivement la partie jouée tout en ayant les commentaires en FaceTime,
voilà,
puis peut-être un partage avec les communautés, quoi.
Voilà.
Et ce qui est bien aussi avec Twitch, c'est si ils ont pris Apex Legends a démarré sur Twitch, parce que pour ceux qui ne savent pas, le jeu Apex Legends n'a pas été annoncé nulle part sur aucun réseau. Et leur stratégie, c'est de prendre les plus gros streamers, les personnes avec le plus de la plus grosse communauté d'influence sur Twitch et sur tous les réseaux. Et ce qu'on leur a fait faire, c'est jouer directement au jeu. Donc c'est comme ça que ça a explosé et c'est comme ça que Apex a démarré. Étant donné que s'ils avaient démarré en annonçant sur les réseaux qu'un jeu arrive, les autres concurrents, donc Fortnite essentiellement, auraient mis les bouchées doubles pour étouffer Apex maximum. Donc ils ont opté pour la meilleure
donc
stratégie.
Les réseaux sociaux ont quand même leur importance pour démocratiser, pour donner envie ou pour commercialiser tout simplement nos nouvelles pratiques. Sur les autres réseaux sociaux, Instagram avec le jeu, avec la passion, qu'est-ce que ce réseau pourrait apporter?
Instagram intéressant parce qu'il est rapide et assez simple d'accès. Lorsqu'on s'abonne à une page que ce soit, parce que en général, quand un jeu sort, il a obligatoirement sa page en français et en toutes les langues de toute façon.
Oui. Généralement, donc, de toute façon, tous les jeux, tout acteur du jeu, que ce soit juste des simples présentateurs, streamers, youtubeurs et autres, utilisent toutes les plateformes, ne serait-ce que pour envoyer chaque communauté
pour diffuser, oui, exactement.
Il y a ça, et il y a aussi pour éviter le fait d'être copié. Enfin, il y a des personnes qui créent des faux comptes pour soutirer de l'argent à des fans ou à des jeunes et beaucoup de choses comme ça. C'est assez toxique, ce genre de choses, ou qui créent des faux concours pour gagner un iPhone. Enfin, je vous ai sûrement déjà vu ça. Vous allez gagner un iPhone ou je sais pas quoi en faisant ci, ça. Voilà, c'est ce qui est important, c'est de créer son propre compte de manière à ce qu'il soit officialisé pour être reconnu comme étant le nôtre et pas celui de quelqu'un qui a créé.
Pour éviter l'usurpation, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux maintenant où on peut donner des tips, où on peut donner de l'argent, des subs, ou en direct, si les personnes sont satisfaites du contenu, donnent 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Avec ce que ça implique sur cette démarche de communauté et tout ça. Au niveau, après on a LinkedIn, donc là c'est vraiment pour les pros de chez Pro, les réseaux professionnels, donc là on est plutôt en présentant, oui je suis team manager ou j'organise ceci, cela. Il y aurait quoi, TikTok et le jeu vidéo et les jeux en général?
Et TikTok, moi, personnellement, je n'utilise pas TikTok, mais je sais que c'est une plateforme assez tournée vers les jeunes, enfin, qui sait tourner vers les jeunes.
Tu parlais de Fortnite, je crois que, justement, il y a eu un gros buzz Fortnite TikTok, partir de TikTok.
Et inversement également, enfin, de toute façon, pour ceux qui ne savent pas, Fortnite utilise aussi des emotes, donc des petites danses directement dans le jeu, donc il s'inspire aussi de danses qui sont produites sur TikTok, ce qui permet de donner aux enfants, aux jeunes, une envie de jouer ou de découvrir sa danse préférée ou sa musique préférée. Ils sont assez malins à ce niveau-là. Et TikTok, ce qui est bien aussi avec TikTok, c'est que c'est encore plus rapide. Franchement, c'est encore plus rapide que... Et addictif. Enfin, il a été formé pour être addictif. C'est encore plus rapide qu'Instagram. C'est vraiment on switch, on voit des vidéos sur des vidéos sur des vidéos.
Je pense aussi que chaque génération, au fur et à mesure, prend dans sa tranche d'âge au moment où, tiens, j'ai découvert Facebook, tiens, j'ai découvert YouTube, etc. etc. Je pense que chaque génération s'accapare un réseau et que finalement, Instagram a emmené TikTok. Précédemment, Instagram, c'était Facebook. Où effectivement, au fur et à mesure, à chaque réseau, sa tranche d'âge et son application.
Voilà, c'est ça. TikTok, c'est la nouvelle génération. C'est... l'appui des jeunes de 2000, 2005, 2003. Facebook, c'est un peu le vieux, c'est le vieux de l'équipe, un peu délaissé des fois, mais c'est exactement ça en fait.
D'accord. Et donc ces interactions réseaux sociaux et passion, sachant que justement il y a forcément du monétaire, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit généralement. Donc il y a déjà les publicités, le ciblage dont chacun est entre guillemets victime. Et après, effectivement, ce mécanisme de devoir donner de l'argent, les abonnements et tout ce genre de choses où il faut quelque part, en tant que passionné, savoir mettre des bornes, puisque justement, le propre de la passion, c'est s'enflammer. Et en s'enflammant, ça peut arriver à des mauvaises pratiques, tout simplement. Les gens que l'on rencontre sur Internet, la problématique de dépenser de l'argent qui n'est pas forcément le nôtre, notamment quand on est plus jeune. Et puis après, savoir mettre ses propres bornes, puisque quand on est passionné, moi-même sur les Kickstarter qui sont une certaine forme de réseaux sociaux quelque part, on a donc, quand on participe à un investissement pour faire un projet, on a du mal à s'arrêter, c'est-à-dire, tiens, il y a un add-on, il y a un petit quelque chose à payer en plus, on le fait encore, etc. Une autre dérive de la passion qui se doit d'être contrôlée, d'où l'intérêt aussi de pratiquer donc avec des bonnes personnes, d'avoir une connaissance large, plutôt que de se faire manipuler, de se faire tout simplement conduire vers ce business-là, passion, etc. Donc, nous atteignons donc la fin donc, de ce Cultimag épisode 5. Donc la semaine prochaine, nous essaierons donc de vous présenter donc justement un nouvel espace de loisirs en Guyane et un petit peu vous définir un petit peu toutes les modes de pratique adaptés aux finances, que ça soit de la gratuité totale jusqu'à une contribution justement pour accompagner une pratique saine. Donc un dernier tour de micro et puis je vous remercie de nous avoir suivis.
Mais je vous remercie également de nous avoir suivis pour cette cinquième émission et je vous dis à la prochaine.
Oui, je vous remercie aussi également de nous avoir tous écoutés. Je vous dis aussi à la prochaine.
Pareillement, merci d'avoir accordé du temps à l'écoute.
Merci donc d'avoir suivi Cultimag en partenariat avec Mayuri Campus. Vous pourrez donc assister à la diffusion donc sur les réseaux sociaux par rapport au live de la Cultimatech, par rapport au live de Mayuri Campus et enfin en diffusion radio le mercredi après-midi. Merci à vous. Okay.